Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
J'ai appuyé sur « Enregistrer » et nous voici en ligne avec David Hoss. Salut. D'ailleurs, comment tu prononces ton nom de famille ?
David Hoss. David Hoss, disons qu'à La Réunion, comme on en reparlera, mais on ouvre le O quand même, enfin comme ça, donc on dit David Hoss, mais c'est vrai que quand on a l'habitude, enfin quand on m'appelle généralement, on ferme plutôt, on dit David Hoss, mais je préfère qu'on me dise David Hoss.
D'accord, ça marche, je le dirais comme ça. Mais excuse-moi pour ce petit break avant de commencer. Salut David, comment vas-tu toi aujourd'hui?
Bah plutôt bien, ça va super aujourd'hui. On est milieu de semaine, j'attends le week-end avec impatience. Normalement, ça débriefait un petit peu avant, mais il fait pas très beau là depuis 2-3 jours, donc la pluie revient, ça fait du bien. Et donc j'ai fait un peu de home trainer ce matin, j'ai un petit entraînement sympa et donc voilà, la journée est lancée, tout va bien.
OK, bon bah cool. Effectivement, un début de journée de champion et du coup tu roules toujours beaucoup. Alors j'ai cru comprendre que oui, mais en termes de d'objectifs sportifs, j'ai l'impression que tu étais très très orienté trail, mais tu continues de rouler toujours
ouais,
en tant
ouais,
qu'avant.
Bien sûr. Ouais, le vélo ça reste important dans l'entraînement, dans le l'approche comme ça de l'entraînement, c'est toujours ça permet de faire un volume intéressant, c'est vrai, on en reviendra aussi, mais moi j'aime bien varier comme ça, courir, rouler, nager, je nage toujours un petit peu et puis ouais. Hier j'ai pu faire du VTT, je suis sorti sous la pluie ce matin, du coup je suis resté à la maison, mais ouais du coup je varie, je continue à rouler bien 3-4 fois par semaine, donc ça représente entre 200-300 bornes, donc voilà, je me fais des petites sessions là comme ce matin, un petit peu de PMA, mais ouais, c'est toujours intéressant de varier varier les sports.
Ouais, entraînement croisé, et puis une fois que tu goûtes à tout ça, c'est difficile de revenir en arrière, c'est clair.
Ouais, c'est vraiment ça, difficile. J'ai eu l'habitude de m'entraîner beaucoup en triathlon dans les trois sports, et c'est un besoin aussi que de prendre le vélo, partir comme ça dans la forêt. J'ai le Jura pas loin de chez moi, chez moi, les premiers contreforts du Jura. Et de partir 2-4 heures en pleine nature, tout seul ou accompagné, c'est vrai que c'est important, ne serait-ce que pour changer un peu d'idée, se refaire un peu, se remettre les idées en place, etc., voir un peu sentir dans la nature, c'est tout le temps quelque chose qui compte pour moi.
Ouais, c'est clair, c'est hyper hyper ressourçant. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Moi, je recommence à rouler. J'ai roulé un petit peu cet été et j'ai commencé à refaire un petit peu mes petites sorties. Et c'est vrai que là. Avec la rentrée et le boulot, je vois que ça va arriver un peu moins souvent, mais je me rends compte à quel point ça me fait du bien et à quel point c'est ça te vide le cerveau, tu vois du paysage,
c'est vraiment top le vélo. Médites. Ça prend, c'est vrai que ça prend pas mal de temps parce que c'est rare de partir une heure, souvent tu pars un petit peu plus, mais prendre son vélo comme ça, en 15-20 minutes, tu changes complètement de paysage, t'es dans des endroits en pleine nature, enfin tu peux te retrouver et c'est vrai que tu t'es avec toi-même, tu peux méditer comme tu dis effectivement, tu te dépasses un peu, tu changes un peu tes habitudes et c'est vrai que c'est cool de prendre son vélo, de partir et puis enfin pareil, j'ai cet été j'ai commencé à prendre à équiper mon vélo, à partir pour 2-4 jours comme ça avec ma tante, partir un peu à l'aventure. Okay. Et c'est vrai que c'est sympa à faire sans trop savoir où tu vas, aller se perdre en fait, découvrir des nouveaux territoires, c'est toujours cool de pour ça le vélo en fait.
Ok, mais écoute, moi j'ai jamais tenté effectivement de partir avec du matos et tout, mais c'est quelque chose qui me tente bien. Ouais, c'est vrai que je le vois de plus en plus. Tu vois, on voit des courses d'ultra distance en vélo. J'ai des copains qui font de plus en plus de gravel et qui effectivement se font des gros road trips. C'est vrai que c'est tentant. Faut trouver le temps et faut trouver le peut-être. Je sais pas si je me vois partir 10 jours ou une semaine 10 jours tout seul, mais ça serait une expérience, faut se forcer, hein. Des fois faut sortir
d'avion. C'est clair, là en plus bon c'est l'été, mais c'est vrai que ça se démocratise beaucoup, mais ne serait-ce que partir pour une journée, passer une nuit dehors, revenir le lendemain tout seul ou avec un copain, sans partir trop loin, et parce que le but c'est vraiment de profiter, on peut décider de faire à peine 100 bornes, de rouler peut-être 2-4 heures, de se caler à un endroit un après-midi, profiter d'un beau petit lac, d'un bel endroit, planter la tente et revenir le lendemain sans forcément rouler 10-12 heures la journée comme on peut voir souvent, ça dépayse et puis voilà, on revient après 2 jours les idées complètement neuves ça permet de redynamiser un peu le truc, c'est sympa, mais vrai que ça arrive.
Je prends le tips et je garde pour moi. T'as bien raison. Faut que je le fasse. En plus, j'ai des copains qui le font, donc ça c'est une super super bonne idée. Bon, on a un peu digressé pour commencer, mais j'aime bien un peu quand ça parle entre passionnés. Tu vois, on a tout de suite envie de parler des passions qui nous rapprochent. Mais la question que j'aime bien faire un petit peu pour lancer ces échanges, c'est de savoir un petit peu qui t'étais dans l'enfance. Et la question traditionnelle pour démarrer le podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport?
Écoute, moi j'ai eu la chance de grandir à l'île de la Réunion et du coup forcément cette première ces premiers souvenirs me rapportent à cette île. Je la situerai peut-être aux alentours des 6 ans, 7 ans lorsque je rentrais pour les premières fois à l'eau pour aller surfer en fait. À l'origine, c'est mon père qui a décidé de partir habiter là-bas parce qu'il faisait du windsurf. Et du coup, nous, on a été avec ma famille, ma mère et ma sœur jumelle. On est parti du coup à La Réunion. On a grandi là-bas et assez rapidement, on s'est mis à faire de la natation pour être un peu plus sécure dans l'eau, pour être plus à l'aise pour aller dans le lagon ou nager. Du coup, assez rapidement, on s'est mis à surfer. Et du coup, je me rappelle des premiers souvenirs vers cet âge-là, 6-7 ans, sur la place des Roches Noires ou peut-être à Trois Bassins, essayer d'aller prendre des vagues avec une copine qui s'appelle Anne-Gaëlle Waro, qui a été championne de surf à son époque. Et du coup, voilà, j'avais les brassards parce que bon, c'était quand même assez risqué. Et j'ai des super souvenirs quand j'y repense. Donc c'est ça, dans l'élément, c'était dans la mer et puis sur la planche de surf.
Ok. Et t'as jamais eu envie d'en faire une carrière ou de t'as fait un peu de compétition, il me semble, non?
Ouais, en fait, assez rapidement, comme je t'ai dit, j'ai fait du surf puis de la natation. Et j'ai tout de suite accroché en fait sur les sports tels que les sports dits aérobie, en tout cas où il y avait vraiment un dépassement, enfin tu vois, où fallait aller chercher au fond de soi-même sur de l'effort. Et du coup, j'ai tout de suite été attiré par la compétition et je menais les deux en parallèle. Et puis à un moment, après j'ai continué à grandir, 7, 8, 9 ans, et puis, je sais pas, naturellement, j'ai continué un peu plus nager que surfer. Et puis voilà, je suis rentré dans les compètes. Et ça me plaisait. L'ambiance était bonne avec les copains, tout ça, le dépassement de soi. Et puis, du coup, j'étais lancé dans ce type de sport. On était fin des années 80, début des années 90. Le triathlon débarquait. C'était vraiment le début du triathlon en Europe, mais à La Réunion aussi. Du coup, je voyais les premières épreuves où bah mon père participait. Et du coup, moi j'avais 7 ans, 8 ans, j'avais les yeux vraiment grands comme ça, aller voir évoluer, nager, pédaler, courir. Je me disais, waouh, c'est quoi ce truc-là et tout. Je courais avec lui sur la fin des triathlons et j'étais baigné dans cette atmosphère-là. Et puis, du coup, naturellement, j'ai eu envie d'aller vers le triathlon plus tard. Du coup, de me mettre à rouler, de me mettre à courir. Et du coup, j'ai délaissé un petit peu plus le surf et je me suis mis un petit peu plus tard au skate, assez sérieusement. Et du coup, voilà, j'ai toujours nagé depuis que j'ai 6 ans, je crois. Ouais. Et ensuite, roulé et puis couru quand j'étais au collège pour tous les crosses et toutes ces genres de compétitions.
Ok, d'accord. Ouais. Bah écoute, hyper hyper inspirant et de voir un petit peu comment un enfant suit un peu les traces de son père aussi. Forcément, c'est impressionnant. Tu vois, mon père c'était le tennis, donc forcément je l'ai suivi au début sur le tennis, mais c'était pareil. Je voyais les compétitions par équipe où il se challengeait, les victoires avec les copains où tu fais de ça et bon, c'est au niveau amateur, mais tu vois, ça crée toujours quelque chose.
C'est un modèle, en fait. Le père apparaît forcément comme un modèle. T'as envie de faire pareil. Tu vois, tu te rends compte que ce qu'il fait, c'est hors du commun, qu'il arrive dans des étapes impossibles. Tu te rends compte de la difficulté de la chose. Et puis, forcément, t'es attiré. Tu vois, l'ambiance tout autour. Nous, on avait la chance à l'époque d'avoir le triathlon international de La Réunion. On avait comme ça les athlètes internationaux qui venaient de temps en temps sur l'île. Et puis, comme on était assez actifs au niveau du club local, il y avait des athlètes qui venaient chez nous. Du coup, d'autant plus, j'avais un rapport direct avec eux, parler du haut niveau, tout ça. Et puis, voilà, c'était lancé pour moi dans ma tête de vouloir en faire plus tard, quoi.
Ouais. C'était qui les champions que tu as pu voir, je sais pas si tu avais quelques noms dont tu te souviens.
À l'origine, c'était Yves Cordier, des gars comme Yves Cordier, Pierre Rousseau qui a été mon entraîneur, un peu plus tard Olivier Marceau, Sébastien Berlier, sont des athlètes qui ont compté pour l'équipe de France, qui ont ramené des titres internationaux à la France. Et, ouais. Et voilà, en marge de ces triathlons internationaux, il y avait toujours des petites courses pour les enfants. Donc, nous, c'était vraiment l'objectif annuel d'être là, d'être performant sur ce genre de course pour après regarder ouais. les grands. Et ouais. Les grands évoluaient, et puis du coup c'était une distance assez un B, ce qu'on appelait B à l'époque, c'était en gros 3 ouais. kilomètres à nager, 80 vélos et une vingtaine de kilomètres à courir dans des conditions souvent difficiles, et du coup les mecs qui arrivaient de métropole comme ça, ils prenaient je me rappelais de ça, ils prenaient souvent des coups de chaud, et en fait voilà, on était baignés dans cette atmosphère, et puis voilà, c'était, comme je l'ai dit plus tôt, c'était lancé dans ma tête, c'était clair que je voulais tenter le coup un jour, et puis essayer d'en faire mon métier, ou en tout cas de vivre d'essayer d'accrocher ce rêve là un jour, quoi.
Ouais. Okay. Ouais, donc tu confirmes que la Réunion est vraiment une terre de déjà une terre de triathlon, et même une terre de demi-fond aussi, ou même de tous les sports en fait, finalement. Ouais. Et tu dis que t'as eu assez tôt, t'y as pensé. C'est ces champions qui te donnent envie. Et tu te doutes que tu dois revenir en métropole et que tu vas devoir probablement quitter tes parents. Enfin, tu vois, c'est quand même pas mal de sacrifices. Tu t'en doutais un peu de tout ça, parce que j'ai beaucoup d'admiration, tu vois, pour ces jeunes, tu vois, qui partent dans tous les sports, tu vois, qui viennent effectivement des dom-toms et qui viennent, tu vois, tenter leur chance en métropole. Tu risques tout, tu vois, d'un côté, et t'en avais un peu conscience de tout ça?
Ouais, écoute, assez tôt, j'ai voulu, j'avais ce rêve de faire les Jeux Olympiques, clairement, parce que j'étais fondu de sport déjà. Je me rappelle dès mes 10 ans, je regardais tout ce qui passait, les Roland-Garros, les Coupes du Monde, les trucs, les box, le Tyson, je me levais la nuit. Enfin, voilà, j'étais baigné dans ce truc de sport, et assez rapidement, j'ai voulu en faire. Tenter ma chance, et je continuais à nager parce que je savais que c'était important pour ma carrière du triathlon d'être, parce qu'à l'origine déjà on disait que c'était la natation qui lançait la course, et du coup d'être au contact de ces champions, j'ai eu une voie toute tracée en me disant faut faire comme eux. Et il y a très tôt, j'étais déjà vers mon premier triathlon, je dirais que je l'ai fait à 11 ans, j'avais 11 ans quand je l'ai fait. Et, wow. Et je crois que déjà vers mes 11-12 ans, j'avais cette idée de partir à La Réunion. En tout cas, je savais qu'à un moment, il fallait que je quitte La Réunion pour vivre mon rêve. Et il fallait que je m'aguerrisse un petit peu. Il fallait que je prouve aussi que j'avais les moyens de le faire, et puis les capacités surtout d'y arriver, quoi. Et du coup, j'ai continué à me former jusqu'à 11, 12, 13, 14 ans, les crosses du collège, tout ça. Je continue à nager, je commençais à courir pas mal. Et puis, en fait, un jour, quand j'avais 14 ans, je crois que ma sœur, elle faisait de la nat synchro à cette époque-là. Elle est partie pour un championnat de France en métropole. Ouais. Et je regardais, puis il y avait un championnat de France, c'était à Bar-le-Duc pour les minimes. Et je me dis, vas-y, tente ta chance, vas-y.
C'est toi, ouais.
Je gagnais tout à La Réunion, je tournais un peu en rond, et je m'étais dit, allez, c'est le moment d'y aller. Et puis, je débarque là-bas, c'est un peu l'inconnu, en tout cas sur le domaine, enfin, sur l'aspect sportif, parce que j'y allais régulièrement pour voir mes grands-parents. Ouais. Donc, c'était pas du tout dans un but de performance et tout. J'arrive là-bas, Bar-le-Duc, je fais 5e ou 6e en minime. Et du coup, je suis repéré par un pôle espoir de Montluçon. Et du coup, 14 ans, j'étais en 3e à ce moment-là. Et puis là, ils me proposent de venir en métropole s'installer. Donc, ni une ni deux, j'ai accepté. Je savais pas trop Montluçon, l'Auvergne, où vraiment ça se trouvait. Et puis, j'étais prêt à accepter, en fait, le défi, peu importe où les conditions, peu importe où ça pouvait se trouver, j'étais vraiment ravi de tenter ma chance. Et en fait, ça a commencé comme ça. Donc, je suis parti, si tu veux, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté La Réunion à 15 ans lorsque je suis rentré au lycée pour l'Auvergne. Et puis, l'aventure commençait là. On était en 1999.
Wow, mais bravo pour le courage que t'as eu, parce que je pense que il y en a plus d'un, là, en tout cas, tel que tu racontes, on a l'impression que tu, que tu étais sur l'autoroute, tu vois, de la réussite sportive et c'est pas trop posé de questions et que tu as pris un gros risque aussi, peut-être par ignorance. Peut-être qu'il y en a qui se renseignent trop et qui se créent des barrières tout seul, en fait. Mais coup de chapeau. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que toi, tu as vu à quel point c'était franchement génial pour un enfant de grandir à La Réunion et tout. Est-ce que ça te donne envie de revenir, tu vois, maintenant que t'es papa, t'as ta petite famille et tout, est-ce que t'as prévu de revenir un jour? Est-ce que c'est quelque chose qui te donne envie de faire vivre ça aussi peut-être à tes enfants?
Bah, c'est vrai que La Réunion, on parle de terre de champions parce qu'il y a beaucoup, d'athlètes qui arrivent de La Réunion. Il y en a beaucoup qui ratent, qui échouent aussi parce que c'est difficile de débarquer en Europe avec les conditions, enfin le climat, parfois l'hiver et tout. Donc, faut avoir un ancrage et tout. Mais c'est vrai que La Réunion, maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'infrastructures et ça permet quand même de progresser, de rester assez tardivement là-bas pour progresser, passer des caps et puis et venir de temps en temps faire des compètes. Mais moi, c'est vrai qu'à l'origine, il y avait pas tout ça. Et puis j'aimais l'idée de partir de chez moi. Ça a été quelque chose qui est venu assez tôt. Je voulais partir à l'aventure, en fait. Je savais pas trop où j'allais, mais c'était en moi, c'était inscrit en moi. J'avais pas forcément peur. J'avais déjà voulu faire des stages, partir en Afrique du Sud et tout seul dès l'âge de 13-14 ans. Bon, je l'avais pas fait parce que j'étais trop jeune, mais voilà. Du coup, je dirais que La Réunion, de par le climat, le relief qu'on y trouve, forcément toute l'année, on peut s'entraîner correctement. Il y a de tout. Tu peux rester sur le bord. Maintenant, il y a des piscines vraiment partout. Tu peux monter dans les cirques. Enfin, et du coup, ça forme les athlètes, que ce soit en triathlon. Là, on a un jeune champion de France minime là qui vient de gagner cette année, mais aussi en surf, sur les sports co. On voit qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui alimentent les équipes de hand, de foot chez les jeunes, de volley et tout. Et du coup, les jeunes, tentent leur chance, partent à l'étranger. Il y a des aides au niveau de la région, et du coup, ça les aide beaucoup. Et à l'origine, moi, j'ai été aidé par la Réunion pour mon projet, mais ça a été avant tout une démarche personnelle, une quête, enfin quelque chose de, je parle de d'aller chercher le rêve que je m'étais fixé de faire les Jeux Olympiques. Et du coup, ouais, je suis parti comme ça. Et j'avais la chance, comme je l'ai dit, d'avoir la famille, mes grands-parents en métropole.
Ici, ouais.
Ça me permettait de les voir. Bon, pas souvent, mais ça me.
Et t'as plus envie d'y retourner maintenant?
J'y retourne ouais, pour assez les courses. Souvent. Ouais, j'y retourne maintenant quand même deux fois à l'année. Là, j'y retourne dans début octobre avec toute la famille, avec ma femme, mes trois garçons pour environ 2 mois. Okay. J'ai l'habitude du coup d'y retourner depuis longtemps, en fait, parce que lorsque j'étais triathlète, j'allais faire ma préparation hivernale là-bas. Je débarquais souvent en décembre, janvier, je restais 2-3 mois jusqu'au mois de mars, puis après je partais en Australie débuter la saison. Et du coup, ça me, au niveau climatique, je m'adaptais bien. J'attaquais la saison toujours pleine bourre, et puis on sait que maintenant l'entraînement conditions extrêmes, enfin de conditions de chaleur, ça a des bénéfices. Et du coup c'est quelque chose qui est rentré dans ma façon de fonctionner. Je quittais l'Europe et je quittais l'hiver pour aller à La Réunion, retrouver mes parents, me ressourcer, c'était important, revoir mes amis. Et du coup, je sortais de là-bas après 2-3 mois, pleine bourre, mentalement vraiment vraiment bien, et puis physiquement aussi. Et du coup, j'ai gardé ça, et je continue à y aller assez régulièrement maintenant. J'ai la chance d'avoir un pied à terre là-bas, donc quand je souhaite y aller, j'ai ma maison, et puis je suis pas loin de mes parents, et je me ressource comme ça.
Bon, bah trop cool, trop cool. C'est vrai que ça donne envie, franchement, quand j'entends ton rythme de vie, je me dis on a de la chance. mais écoute, super chouette. Et je te le disais un petit peu, ouais, en préambule un peu de préparation de notre échange, tu vois. Moi, j'avais beaucoup apprécié. Alors forcément, tu vois, j'ai six ans de moins que toi, mais j'avais beaucoup apprécié, tu vois, t'avoir dans les rôles modèles, un peu ce côté un peu rock, ce côté un peu surf, ce côté un peu, je sais pas comment on pourrait dire, mais tu vois, un peu effectivement Ouais, peut-être, ouais, un petit côté un peu surf, un peu rock. Mmh. Et dans le triathlon, parce que ça détonnait un peu, ça détonnait beaucoup, tu vois, où on voyait au contraire les anglo-saxons qui étaient toujours très carrés, pas très fun, tu vois, en tout cas, à voir sur les, pendant les courses et à la ligne d'arrivée. Toi, c'est pas un truc que, c'est un truc que t'as voulu garder tout au long de ta carrière, un peu, c'est vraiment cette, ces racines. Est-ce qu'on, je sais pas, est-ce qu'on t'a jamais fait remarquer ou, on te l'a jamais reproché d'ailleurs, ton style
pas du tout, au contraire, c'était plutôt vendeur, je dirais, au niveau des partenaires, ça m'a bien aidé tout au long de ma carrière, mais au-delà de ça, ça a été quelque chose que j'ai volontairement cultivé, ou en tout cas j'en avais besoin, parce que ça me rapprochait de la Réunion, ça me rapprochait de mes racines, et c'était quelque chose qui me permettait de m'équilibrer comme ça, de pas me perdre et de pas me lancer, parce qu'au final, moi, la métropole, l'Europe et tout, c'est pas l'endroit où j'ai grandi, c'est pas mon endroit. Enfin, et du coup, j'aimais comme ça, ouais, cultiver cette image de gars gars des îles. Et puis, c'était quelque chose qui m'allait bien, un petit peu. Enfin, ouais, c'était toujours. J'avais un peu cette image, un peu de gars qui s'en fout. Ou en tout cas, j'étais vraiment concentré sur mes trucs. Dans mes idées, dans ma façon de voir les choses, mais c'était, ouais, je pense que c'est quelque chose qui est propre, qui m'est propre, et puis voilà, c'est mon éducation, c'est mon histoire, c'est quelque chose qui me porte ouais. Et qui plaît, donc voilà, pourquoi le changer, c'est pas, et donc voilà, ouais, c'est,
okay.
C'est ce qui compte. Ouais.
T'avais pas un petit porte-bonheur ou un petit gris-gris de la Réunion? Je crois que t'as toujours une casquette déjà.
Ouais, j'ai toujours une casquette. J'avais quoi? Non, j'ai pas eu. Je suis pas trop porte-bonheur. J'avais non, j'ai un petit Bouddha. J'ai un petit Bouddha qu'on m'avait offert à la Réunion. Je sais pas, avant que je commence à vraiment bien marcher sur le circuit, avec un gros sac à dos et un petit Bouddha en bois massif que je prends tout le temps avec moi. Et en fait. Mais sinon, non, je m'attache pas trop à ces choses-là. Je suis pas, ouais, c'est pas quelque chose qui m'emporte trop. Mais en tout cas, je suis assez ouvert, en tout cas, aux signes de la vie, signes de l'univers. Enfin, les petits signes qui font le quotidien. Et je pense être né sous une bonne étoile et toujours avoir pris les bonnes décisions en écoutant mon instinct comme ça. Et j'ai rarement été desservi. Et je continue à écouter ces choses-là, ça m'aide d'autant plus, donc voilà, je crois en rien, mais en tout cas je suis mon étoile, et puis pour l'instant ça me réussit bien.
Ouais, t'as une bonne intuition.
Ouais
ça se travaille, ça, d'avoir une bonne intuition, je sais pas, tu médites, des grandes tournées à vélo.
Ouais, je fais pas mal de méditation depuis le temps, pas mal de travail de respiration aussi qui me permet de me recentrer, puis d'apprendre en fait à gérer, c'est pour après un peu, on reviendra sur le trail, mais tu sais, à délaisser les idées négatives, à garder que le positif, ouais. À voir le bon côté des choses, comme ça, c'est des choses qui viennent avec l'expérience. Au début, t'en as pas forcément conscience, tu prends pas garde à ces choses-là, et puis doucement, avec le temps, avec les déceptions, avec les ratés, tu te remets en question plusieurs fois, tu te remets debout, tu repars en selle et tout, et du coup, tu t'ouvres comme ça à plein de petits signes qui te font avancer, auxquels tu t'accroches, et en fait... voilà, je trouve que plus tu avances dans l'âge et plus tu es réceptif à ces choses-là, tu es en capacité d'écouter la vie de parler, et puis et du coup maintenant, ouais, je suis assez open sur ces choses-là.
Ouais.
Et, ouais, mais c'est vrai que ça met du temps, hein. Maintenant j'ai quasiment plus de 20 ans de carrière derrière moi. Les 10 premières années, j'en étais pas du tout là.
Je voulais voilà, te demander ça, ouais.
Ça se construit, ouais. Ouais, vas-y.
Ouais, je voulais te demander ça, justement, si il y a effectivement la maturité où, avec l'âge, on devient plus à l'écoute de ce genre de signaux. Mais est-ce que aussi, tu vois, le fait que tu aies un rythme de vie hyper intense, parce que vous entraîniez, tu t'entraînais, j'imagine, comme un dingue, quand on voit la quantité d'entraînement que fournissent les triathlètes pro aujourd'hui, c'est monstrueux. Mmh. Est-ce que le triathlon aussi laisse moins de place, je veux dire, à ce type de réflexion-là, parce que tu dois vivre à 100 à l'heure, faut s'entraîner H24, enfin toute ta vie est tournée vers ça. Mmh. Et si tu commences à te poser un peu des questions, à prendre un peu du recul, peut-être que aussi, tu vois, ça peut avoir pas un effet néfaste sur la performance, mais tu vois, ça peut faire peut-être un peu déjouer, tu vois, par un moment.
Ouais, non, absolument. Chaque chose, je dirais que chaque chose en son temps. Lorsque tu débutes, tu as des rêves en tête, tu as des objectifs qui sont hauts. Il faut se mettre des gros objectifs en tête, et donc tu te demandes comment je vais pouvoir y arriver, quels sont les moyens que je peux mettre en place pour arriver à telle performance, arriver à ce niveau de compétition et tout. Et donc tu tâtonnes comme ça, tu vas, tu viens, tu fais des erreurs, tu dis ah ça marche comme ça. Et en fait, t'es dans un système aussi qui fait que il y a que la performance quand t'es à haut niveau, il y a que la performance qui compte. Et du coup, la performance, ça passe par le travail. Donc, et forcément, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices et tout. Et lorsque t'es triathlète, c'est quasiment 3 entraînements tous les jours. Hein, franchement, ouais. Moi, lorsque j'ai commencé à vraiment bien tourner, j'ai eu mes premiers résultats vice-champion du monde junior. On était 2002-2003. Mm. À partir de ce moment-là, tu rentres dans ce qu'on appelle la préparation olympique, enfin les athlètes référencés olympiques pour dans la fédération. Donc tu es dans des projets et tu es sans cesse en train de réfléchir à quoi faire pour progresser et tout. Et c'est vrai que tu peux te perdre parce que tu perds le plaisir, tu perds l'essence qui t'a fait commencer le triathlon ou d'autres sports, hein, et puis tu fais des contre-performances, donc tu vois, tu te remets en question, et en fait c'est comment gérer, il faut apprendre à gérer en fait toute cette pression en fait qui est là, de se parler des sponsors qui veulent que tu cours ou veulent des résultats, la fédé qui veulent que tu perds sur telle course, sur des championnats, et du coup c'est vrai que t'es pas forcément à l'écoute de tes sensations, t'es plus en train de regarder ce que fait l'autre à côté, te dire moi je suis capable aussi de m'entraîner autant. Et puis tu peux, j'ai rentré dans des surentraînements, ça m'est arrivé plein de fois, tu vois, où j'étais plus capable de mettre le pied devant l'autre, mais pour moi, je m'entraînais pas encore assez. Il fallait que j'en rajoute et que j'en rajoute. Ça me permettait de me de prendre confiance, enfin de garder de la confiance en tout cas. Et c'est difficile à gérer. Alors que des fois, faut justement essayer de prendre du recul, voir ce qui ne va pas. Et puis et ça, quand t'es jeune, t'as la tête dans le guidon, c'est difficile à voir, c'est difficile à faire. Toi, tu veux qu'une chose, c'est parfait, faire les meilleurs résultats possibles. Mais parfois, ça passe par une façon de faire différente. Et du coup, c'est important de s'entourer des bonnes personnes qui puissent te dire les bonnes choses, les athlètes aussi qui peuvent t'inspirer, auxquels tu parles et qui te redirigent un peu. Ce sont des choses importantes, tu vois. Mais c'est vrai que jusqu'à mes 28 ans, j'étais un peu dans cette façon de fonctionner. Il m'a fallu quasiment 10 ans pour vraiment comprendre que c'était moi le maître de mon projet, que je voulais vraiment arriver à perfer un jour sur les jeux et de mettre mettre en place les choses qui moi me permettaient d'être fort et pas de faire comme un tel, et tu vois, on a tous notre histoire, notre façon de faire, et du coup voilà, ça peut prendre du temps, donc c'est important de savoir prendre du recul malgré que la motivation est là, et c'est des choses c'est des choses, ça vient saison après saison, c'est du tâtonnement, la découverte de soi, du sport et du
ouais c'est clair. Tu vois, c'est sûr que je te posais un peu la question parce que de l'extérieur on voit peut-être parce que c'est moi aussi, j'ai fait beaucoup de triathlon, j'en fais encore, et du coup d'un point de vue externe on se dit waouh les gars, c'est des machines en fait.
T'es plus sur le court ou sur le long toi?
J'ai fait un peu de tout et là je me reprépare pour faire du court plutôt.
Ah ouais, super. Donc,
j'ai fait beaucoup de courts au début. Après ouais. J'avais envie de tester un petit peu mes limites.
Ouais.
J'ai fait 2 halves à Aix et Vichy. J'ai fait le long de Cergy aussi.
Ouais.
Et je me préparais pour Nice et j'ai fait des calculs rénaux, figure-toi.
Ah ouais.
Du coup, on m'a fortement déconseillé les sports à forte sudation.
Ouais, d'accord.
Et les sports d'endurance, donc ça m'a traîné un peu pendant 2 ans et demi, là. Donc
là, c'était quoi, Nice? C'était 2018, 2019 avant?
Ouais, exactement, 2018.
D'accord. Ok, ok.
Et du coup, là, j'en suis ressorti et j'ai commencé à recourir, à bien me réentraîner. Okay. Et j'ai à nouveau quelques projets, donc ça va faire.
Ouais. Mais voilà, tu vois, toi-même, tu le dis, tu vas, tu viens, tu tâtonnes, tu vois ce qui marche, ce qui marche pas, et puis tu évolues comme ça en trouvant ce qui te correspond le mieux. Mais c'est un parcours de vie, ça prend du temps, et c'est vrai que quand on est jeune, on n'a pas forcément ce recul-là, et c'est important.
Ouais, c'est clair. Non, et puis ouais, je te disais, on vous voit ouais, vraiment comme des machines à vous entraîner, à respirer triathlon H24, et c'est un peu... Moi, c'était un peu... ça m'a été reproché, je sais pas toi, mais tu vois, de la part de certains copains, de dire, en fait, déjà, quand tu as une discipline en tête ouais. sur laquelle tu dois tout optimiser, ouais. c'est déjà ouf. Alors, quand on a déjà t'as trois disciplines sur lesquelles tu es au top niveau mondial sur chacune des disciplines en individuel, tu vois, tu te dis, waouh, wow, c'est...
c'est un vrai style de vie, quoi. Je veux dire, tu te lèves le matin, tu penses à tes entraînements, la récup, à repartir t'entraîner, et c'est vrai que ta famille, tes copains, ils passent un peu au second plan. Il y a une soirée, un truc, tu dis putain non les gars, j'ai un entraînement, une série le lendemain, c'est sans cesse ça quoi. Ouais. Tu sais que t'as un entraînement, c'est ce qui fait ta journée, la priorité de ta journée, et tu viens caler le reste en fonction, et du coup tu délaisses un peu le reste, et au final, nous on avait l'habitude de dire nous on n'avait pas forcément de vie à côté de ça, tu vois, on pensait qu'à s'entraîner, à faire notre truc. Et maintenant, tu vois, enfin, je me dis, mais comment j'ai pu vivre comme ça, faire ça pendant 15 ans? Mais lorsque t'es dans la démarche du truc, c'est ouf, quoi.
Ouais.
Et d'autant plus en tri où ce sont des sports qui prennent quand même pas mal de temps, hein, c'est sûr. Mmh. Ouais.
Et c'est important de, tu vois, de bien s'entendre avec les autres gars de l'équipe, justement, quand t'es dans un rythme aussi intense et tout. J'imagine que tu vois, en plus, si c'est d'un point de vue humain, ça doit être, c'est important d'être bien entouré ou d'être avec des gars avec qui tu t'entends, parce que si tu t'entends pas, tu vois, je pense forcément tu penses aux frères Brownlee, tu vois, parce que tu te dis les deux ils ont dû se tirer vers le haut tellement s'apporter l'un l'autre, et je pense que ça doit être un énorme soutien.
Ouais, c'est important parce que en fait ton groupe d'entraînement, en fait, en gros on est tous dans la même galère, en tout cas on cherche, tout le monde cherche à progresser, et en fait on serre tous les coudes parce qu'on sait que c'est dur tous les jours. C'est dur ensemble, ça forge vraiment le caractère du groupe, de la personne, et il y a beaucoup de respect en fait entre les athlètes, parce qu'on sait le travail que ça demande, l'investissement que ça demande et tout, et parfois les premiers des classements, eux ils gagnent de l'argent, ils gagnent leur vie, donc si tu veux c'est plus facile, mais il y en a combien derrière qui ne gagnent vraiment pas leur vie, et qui galèrent et qui continuent, qui s'obstinent, tu vois. Et c'est eux vraiment qui ont beaucoup de mérite, et à continuer comme ça année après année à s'entraîner en se disant « Ah si, un jour ça va passer ». Donc c'est important d'avoir une structure fiable sur laquelle tu peux compter, que ce soit les coachs, les athlètes, la famille et tout. Parce que à un moment donné, tous les athlètes passent par des phases de down où tu as envie de tout arrêter. C'est pas forcément triathlon, c'est un peu comme tout. Et voilà, c'est l'ambiance du groupe, c'est ça qui te permet de doucement te relever, de repartir. Et alors tu peux le faire tout seul ou pas, ça dépend de chacun. Mais un groupe d'entraînement. Nous à Boulouris, donc du coup j'ai fait un an à Montluçon. Après j'ai eu du mal à m'acclimater. J'ai voulu rentrer à La Réunion, et puis j'ai eu l'occasion de rentrer en Pôle France du coup en l'an 2000 à Boulouris dans le Var. Et là j'ai trouvé vraiment des bonnes conditions avec des infrastructures vraiment vraiment bonnes, avec un groupe d'entraînement où j'étais quasiment le plus jeune, donc il y avait beaucoup d'athlètes plus âgés que moi qui m'ont permis de gagner en expérience, et puis qui m'aidaient, qui me tiraient comme ça à me dépasser, qui m'aidaient à me dépasser, et du coup ça m'a beaucoup apporté d'avoir ces gars-là à mes côtés, et pas de se griller, bien que chacun fasse sa route, mais ça c'est vrai que ça compte beaucoup.
D'ailleurs on peut prendre la grosse tête quand on est deux fois champion du monde de junior d'affilée, vu que je te connais, je me doute que non, tu vois, mais c'est un risque, tu vois, c'est un risque.
En fait, tu comprends assez vite que les juniors c'est quelque chose, mais au final, ça reste les juniors, et au final c'est rien, quoi. C'est bien pour sur l'instant T, t'es vice-champion du monde, ça te motive à continuer, mais tu te rends compte que lorsque tu fais des courses avec les seniors, les élites, parce qu'il y avait les grands prix nationaux où on courait pour nos clubs, tu te confrontais aux meilleurs mondiaux et là tu prenais des cartouches et tu te disais bah au final je suis rien quoi, je suis juste bon dans ma catégorie mais le but c'est pas ça et je crois que les athlètes en tout cas sont assez conscients de ça, de que c'est bien d'être fort chez les jeunes mais au final ça c'est pas un gage de réussite plus tard pour lorsque tu passes élite et du coup c'est le travail qui compte de se remettre en question et si tu commences effectivement à sortir de la route et puis à prendre les mauvais chemins, t'es vite rappelé à l'ordre et puis ouais, de toute façon t'es obligé de beaucoup travailler en triathlon, beaucoup t'entraîner et si tu commences à prendre la grosse tête, tu prends vite des tartes en course et puis c'est rapidement fini donc je crois qu'en en triathlon c'est rare hein, franchement, il y a des athlètes un peu mais tu vois c'est comme tout mais ouais ce sont des athlètes vraiment humbles, respectueux l'un vers l'autre, tu vois
c'est vrai,
il y a une bonne il y a vraiment une bonne philosophie je trouve
dans le triathlon. Je suis assez d'accord, c'est un sport dans lequel effectivement tu sais qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir,
il y a le côté m'as-tu vu un peu, tu sais souvent on parle du triathlète avec les tenues, les lunettes, les machins et tout, bon ça fait partie du folklore mais au-delà de ça, ce sont des athlètes qui s'entraînent beaucoup, père de famille ou pas, tu vois, et peu importe le niveau.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Faut que ce soit au niveau international, comme le mec qui va préparer son Ironman à Nice, le mec le dimanche matin, il va se lever, il va aller faire ses 4 heures, il va laisser les enfants, le truc, tu vois.
Ouais,
du coup, ça forcément, ça, t'as une vision, enfin une approche de la vie différente de d'un autre sport, par exemple.
Ouais, bah c'est clair, ouais, je confirme les 15 heures d'entraînement par semaine minimum pour préparer Nice, tu vois, c'est des gros volumes et c'est vrai qu'il y a, du coup il y a beaucoup de respect mutuel et d'humilité en fait, tu vois, par rapport au travail des autres. Absolument. Parce que tu peux faire, et tu vois on l'a encore vu et on le voit souvent sur des top courses, tu vois, et on le voit peut-être pour les jeux, tu vois, malheureusement avec Vincent, tu vois, on peut voir il fait la meilleure saison possible, tout le monde dit il est top préparé autour, tout le monde dit ouais mec ultra focus, c'est le jour J. T'es pas, t'es un tout petit truc en moins, tu vois. Un mec qui t'a réveillé en pleine nuit, tu vois, un tout petit peu de bouffe qui est moins bonne, ou le moindre truc qui te tracasse un peu l'esprit, et ben, le jour J, t'es moins bien, et en fait, tout le monde le sait, et du coup, tout le monde a beaucoup d'humilité aussi, je trouve, par rapport à ça dans ce sport.
Ouais, les jeux, enfin les grosses courses, c'est vraiment tout le monde élève son niveau, tu vois, est capable de passer des caps parce que tout le monde s'entraîne beaucoup et après voilà, bah il faut avoir la niaque le jour, il faut être prêt physiquement mais mentalement prêt à vraiment aller se faire mal et puis aller chercher le petit truc qui fait la différence. Et sur les courses habituelles, bah tu peux te retrouver à 5 et là bah non, là il y a 15 athlètes qui sont dans le même état d'esprit que toi et tu vois, c'est des choses qui s'apprennent, qui se gèrent et tout. Mais après, c'est sûr que c'est beaucoup de respect, d'humilité entre les athlètes et ça forge le caractère.
Et toi, les jeux là, t'en gardes cette ta 4e place à Londres, t'en gardes quel souvenir? Tu vois, c'était, moi je me souviens encore, c'était super beau, tu vois, de voir un triathlète déjà rentrer dans le top 5. Et en même temps, tu te dis, merde, 4e, fais chier.
Non, j'en garde vraiment un bon souvenir. Si tu veux, quand on a débuté l'entretien, je parlais, tu sais, de rêve olympique. En fait, quand j'ai quitté La Réunion, mon rêve, c'était de faire les Jeux Olympiques un jour. Et si tu veux, j'avais 15 ans quand je suis parti de La Réunion. Lorsque j'ai fait les Jeux, j'en avais 28. Il m'a fallu toutes ces années pour y arriver. Ça a commencé à vraiment à se décanter pour moi dans les années 2008-2009, où j'ai commencé vraiment à avoir mes résultats en élite sur les Coupes du Monde et tout. Si tu veux, il m'a fallu quasiment 10 ans pour y arriver. Et, et 2008-2010, je monte comme ça, je passe des caps, des paliers. Vraiment, j'étais focus sur les jeux. J'avais une ambition, c'était pas forcément pas de faire les jeux, mais de réussir mes jeux. Et donc j'étais vraiment omnibulé par ça. Et je suis arrivé le jour des jeux vraiment avec l'impression que je pouvais gagner ce jour-là. Tu vois, j'étais sur le ponton de départ, j'avais Gomez à ma gauche, j'étais classé numéro 2 ou 3 mondial et j'avais gagné une Coupe du Monde au Japon. En tout cas, je faisais des trucs à l'entraînement qui me permettaient de penser que sur une bonne journée, je pouvais gagner ce jour-là. Donc, si tu veux, c'était déjà une première victoire que d'arriver sans blessure, sans pépin, en pleine capacité, en croyant vraiment à mes chances. Et encore fallait-il que le concrétiser, tu vois, mais déjà d'arriver là ce jour-là après 10-15 ans de pratique, enfin de d'investissement, et puis se dire bon bah je suis au jeu, j'ai tout fait pour je pouvais rien changer dans ma prépa pour améliorer les choses. Et du coup ouais, ce jour-là je fais quatrième, j'ai vraiment donné, fait une course super où j'ai atteint mon à pied, notamment sur le 10 km où je cours en 29-44, je crois. Ça a été mon meilleur 10 bornes que j'ai pu faire en carrière. Seulement voilà, on est tombé sur une génération où souvent on avait l'habitude de dire c'est un peu comme en tennis, Djoko, Federer, Nadal, tu vois, nous on avait les deux Brony, Gomez. Et dans ces années-là, quand ils étaient là, c'était 1-2-3, 1-2-3 dans un sens ou dans l'autre. Et nous, on était une dizaine d'athlètes à récupérer les places derrière, entre 4 et 12. Et si tu veux, je fais 4 ce jour-là en sortant une course de ouf. Mais je finis à 20 secondes de la médaille. Donc, c'est loin, c'est peu, mais c'est loin aussi parce que ce jour-là, je ne pouvais pas aller la chercher. 20 secondes, je ne les avais pas. Donc, sur le coup, c'est un peu rageant, mais avec le temps, j'ai su apprécier… d'être finaliste et de faire la meilleure perf française au jeu, et puis de surtout de faire une course pleine, et tu vois, en ne regrettant rien, quoi. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, même 10 ans après, c'est ce qui ressort encore. Et je peux dire que, et en plus les Jeux de Londres, au-delà de ça, si tu veux, ça a été une réussite. Les gens ont été tellement accueillants, c'était une telle fête, une telle je sais pas, un tel engouement là-bas, c'était incroyable, quoi. C'était la vraiment la magie des jeux, parce qu'après on s'est crié, c'était un peu compliqué. Cela, j'en parle pas, ceux qui viennent de se dérouler, j'en parle pas. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça a été un bon souvenir. Avec Laurent aussi, on fait une course ensemble, avec Vincent qui commençait vraiment à marcher fort. On était une bonne équipe, et avec le coach, enfin c'était des souvenirs incroyables. Et c'est vrai que ce résultat vient couronner tout cet investissement de durant des années et des années.
Ouais, bah ça me fait plaisir de te l'entendre dire, tu vois. Moi, ça me rappelle des bons souvenirs parce que j'étais devant ma télé ce jour-là, et c'est vrai que effectivement il y avait le trio gagnant qui était rageant, quoi. C'était déjà une génération. Si eux n'avaient pas été là, c'était déjà une génération incroyable. Il y avait un niveau qui était absolument fou. Mais là, t'avais trois extraterrestres en plus qui étaient.
C'était indéclassable. À Londres, chez eux, je me rappelle, on courait dans le Hyde Park là. On s'entendait pas respirer. Il y avait des rangées 4, 5, 6 personnes comme ça à crier comme ça. C'était incroyable, quoi. Ça faisait la chair de poule. C'était Et puis au final, ouais, c'est Alistair qui gagne chez lui et tout. C'est incroyable, c'est sûr. J'aurais aimé faire une médaille et tout, mais non. Au final, je suis satisfait de cette place-là, et c'est un super souvenir.
Ouais, c'est clair. Et tant mieux. Écoute, ça me fait plaisir de l'entendre dire. Je voulais pas spécialement te parler des jeux d'après parce que j'étais retombé sur ta lettre et tout, et je me suis dit bon. C'est rien de me reparler et tout, parce que c'est vrai que ça a été bizarre, tout ce qui a pu se passer depuis. Mais toi, ça t'a fait, tu vois, enfin, je sais pas comment dire, mais est-ce que, enfin, aujourd'hui, t'es apaisé avec, tu vois, avec ce qui s'est passé, et tu sais où tu vas, et.
Ouais, carrément. Là, c'est de l'histoire ancienne, c'est sûr. C'est ce que je te disais au début, c'est que, lorsque t'es comme ça, t'es à faire les jeux dans une démarche vraiment de haute performance, et bah tu perds un peu le contrôle, enfin de des choses, et puis tu vois qu'une chose, c'est ces jeux, tout le monde te parle que des jeux, et forcément lorsque tu perfs l'année d'avant sur le test event, je fais 4, je remplis le critère, donc tu vois, j'avais 4 ans de plus, 32 ans, je me préparais vraiment pour cette seule et unique course qui était les jeux, tu vois, et du coup je me suis un peu perdu sur la prépa, enfin l'hiver d'avant. Bon, j'ai eu des choses, ouais, qui ont fait que ça a été difficile à gérer, tu vois, notamment Laurent qui était devenu mon coach, Laurent Vidal, et qui décède peut-être 7-8 mois avant les jeux, tu vois. Ça m'a fait perdre pied, j'ai voulu continuer à m'entraîner d'autant plus, je suis rentré dans une petite forme de surentraînement, et du coup j'étais plus maître de des choses, et puis j'ai couru après ma forme, et puis après la Fédé, les cadres et tout, eux, pour eux, ce qui compte, c'est la perf au jeu. Donc ils ont un choix à faire, et ils ont décidé de me mettre de côté. C'est vrai que sur le coup, j'étais très déçu, parce que un parcours au jeu c'était à Rio, avec des conditions semblables à la Réunion, d'humidité, tout ça, c'était vraiment pour moi, tu vois. Je pensais vraiment pouvoir faire quelque chose. Donc forcément, c'est rageant. J'avais fait cette lettre. Quand même, je l'avais pas fait à chaud, tu vois. J'avais pris le temps de bien penser, de bien faire les choses, mais voilà, c'était un petit cri du cœur et tout. Bon, ça a fait l'effet que ça a fait. Je regrette rien. Hein. S'il fallait le refaire, tu vois, j'assume ça. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, si tu veux, j'ai commencé à me dire maintenant, t'as fait un peu le tour, 32, t'arrives à 32, 33. Pense à faire autre chose, tu vois. Il y avait le trail, je faisais du trail depuis pas mal de temps dans ma préparation hivernale, et puis j'avais envie de changer. J'avais eu mon premier garçon, chanté que l'investissement qu'il fallait donner, je l'avais plus forcément dans la tête, et puis c'était le moment de changer, tu vois, de tourner la page. Ouais. Donc tu vois, on était 2016. Bon, j'aurais bien aimé finir là-dessus sur les jeux de Rio, mais bon, comme ça fait partie du sport. Il faut, sur le coup c'est dur à accepter, mais maintenant maintenant ça va, je suis passé à autre chose, je m'éclate, et puis voilà quoi.
Ouais, mais écoute, j'avais lu effectivement cette lettre à l'époque, et je l'ai relu un peu là, et je me suis dit toi ça a dû te faire du bien effectivement de l'écrire, autant peut-être certains ça a dû en mettre une petite claque, et pas forcément agréable à lire, mais ça se comprend. Et après, tu vois, si j'imagine que tu as eu aussi avoir peut-être des excuses en off ou des mots
Ouais, non, tu sais pas trop, non, tu sais, quand c'est les jeux, que ce soit les athlètes, les cadres, les gars de la Fédé, tout le monde est tout le monde a de la pression en fait de résultats, tu vois. Bien eux sûr. Parce que je sais pas, j'imagine des subventions, des trucs, des de la reconnaissance, nous forcément, on veut faire du mieux possible, mais tout le monde a son supérieur qui tape comme ça, et puis du coup, faut faire des choix à un moment donné, voilà. Mais sinon, je dirais que les choses n'ont pas forcément changé de ce que j'ai pu écrire, tu vois. On peut s'en rendre compte si on suit un peu les choses de l'intérieur. C'est pas pour ça que les choses ont changé, mais en tout cas, je sais plus trop mon histoire. Je suis supporter de l'équipe de France. Je suis forcément déçu pour Vincent, parce que je pense qu'ils sont arrivés, ces jeux sont arrivés un an trop tard. L'année de 2020, il a été imbattable. Il était imbattable. Il a été imbattable. Il a perdu aucune course, et tu vois, il aurait dû gagner cette année-là. Mais bon, maintenant, ça fait partie des choses. Mais en tout cas, je me suis réjoui quand ils ont gagné leur médaille. Et puis depuis le temps qu'ils couraient après cette médaille, c'est pas une médaille individuelle, cette troisième place sur le relais, mais en tout cas, ça ouvre leur compteur. Et puis en espérant que sur la prochaine Olympiade à Paris, ils aillent la chercher enfin, quoi.
Ouais, mais c'est clair. Mais c'était quand même une très belle médaille, tu vois. Au collectif, ça fait toujours quand même.
Ouais, c'est clair.
Hyper plaisir. Et...
Ouais. Puis ce genre
un
de...
peu rompre la malédiction, tu vois, mais il fallait, je pense, c'était même l'équipe de France au sens large qui était très belle, et du coup, c'est, c'est aussi cool que tout le monde soit récompensé.
Ouais, non, c'est ça, parce que on te le répète, enfin, hein, sans te le dire ouvertement, mais putain, c'est la médaille, uniquement la médaille, si tu veux. Et là maintenant, bah, elle est là. C'est une médaille par équipe, mais en tout cas, on va plus te dire quand est-ce qu'elle arrive cette première médaille. Ça permet de libérer un peu les choses et de bien préparer l'avenir. Les athlètes vont capitaliser là-dessus, tant mieux pour eux. Et puis ça motive l'envie de faire mieux à Paris, chez soi, là-bas, tu vois. Et je pense que là, il y a une bonne génération de jeunes qui arrivent, qui poussent, et il y a fort à parier que ça réussisse à Paris. En tout cas, je l'espère. Mais c'est vrai que ça a pris du temps. Les Jeux sont arrivés en 2000. Putain, il a fallu attendre quasiment 20 ans pour avoir cette médaille, sachant que la France est souvent dans les trio de tête, quoi, dans un des trois meilleurs pays du monde. Donc, comparé aux autres, aux Américains, aux Anglais, même aux Suisses. En Suisse, ma femme est Suisse, et ils ont déjà 3-4 médailles pour le petit pays que c'est, tu vois, c'est ouf, quoi. Donc, ouais. Donc voilà, faut un début à tout, et puis c'est une bonne chose.
Voilà, ouais, mais t'as raison. Et on souhaite que effectivement Paris 2024 soit une super réussite, et ouais. On fasse mieux que les Anglais à Londres quand même, parce que à chaque fois que j'entends des athlètes qui ont fait justement les Jeux à Londres, et tout le monde est unanime pour dire que ils ont été très forts.
Pas seulement le triathlon, hein, ils ont su élever leur niveau dans tous les sports. En fait,
tout était fait pour que.
Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont partis du postulat à se dire quels sont les sports potentiellement où on peut ramener une médaille. Ils ont vraiment investi en délaissant les sports mineurs et en investissant vraiment à fond la caisse sur ces sports-là. Et on a vu sur la piste en vélo, en triathlon ou en athlée. Enfin, tu vois, ils avaient fait. Vraiment des gros jeux, donc espérons qu'en France ça fasse la même chose. Donc mais c'est vrai que les Anglais savent faire, c'est des Anglo-Saxons, tu vois, ils ont cette culture et cette rage de vaincre, c'est vrai qu'on peut s'en rendre compte quand on les fréquente. Ouais.
OK. Mais non, c'est vrai qu'en plus il y avait ce calcul là, j'avais regardé le nombre de médailles qui étaient distribuées sur le vélo de piste, tu vois, et tu te dis mais en fait si tu mises tout là-dessus, tu peux éclater les classements. C'est ce qu'ils ont. Hyper pragmatiques et ça a payé. Donc,
comme les Japonais en judo cette année, tu vois.
Exactement.
Ils savaient que c'était leur sport phare et ils ont gagné, je sais pas, quasiment 8 titres et tout. Ce qui a fait d'eux un top. Ils ont fait top 3e, je crois. 3e au classement des médailles.
Belle perf. Très belle perf. Je voulais un peu parler aussi de tes projets actuels et aussi de ta j'ai l'impression que t'as toujours fait du trail en fait, mais peut-être que t'es revenu, enfin tu on sent qu'en ce moment tu souhaites venir, et que ça te démange en tout cas depuis un petit moment de venir sur de l'ultra long et d'aller performer sur de la très longue distance. Je vois que t'as fait plusieurs fois la Mascareigne et les Bourbons, donc c'est que ça prépare ça prépare tranquillement la Diag, tu vois, tranquille. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur ces distances là qu'est-ce qui t'a donné envie d'allonger, et aujourd'hui c'est quoi tes rêves les plus fous, qu'est-ce que t'as envie d'aller chercher, parce que tu t'es un peu cherché, j'ai vu aussi que t'avais fait du swimrun.
Ouais, absolument. En fait, c'est ça le tri. En fait, pour revenir vite fait au tri, c'est ce qui me plaisait, c'est de pas faire tout le temps la même chose, de nager, de rouler, de courir, tu vois, tout le temps. Moi, j'adore l'idée de, enfin, se challenger sur des nouveaux sports comme ça, du swim run, du trail, machin, partir en VTT, chaque fois pousser, repousser ses limites, comme ça, aller dans l'inconnu et s'essayer. Et du coup, et c'est pour ça qu'à un moment donné, plutôt que de m'obstiner en triathlon parce que j'aurais pu passer sur du longue distance, à un moment donné, tu vois, j'ai voulu partir sur dans des choses que j'avais pas forcément l'habitude de faire, bien que du trail j'en faisais déjà depuis 2010-2012. L'hiver, je le disais, à La Réunion, je faisais des courses 20-30 km parce que je trouvais ça bien pour la préparation, l'endurance musculaire, etc. Ça m'apportait en triathlon. Et donc j'ai gardé dans un coin de ma tête, mais c'était difficile de faire les deux. Et puis à 2016-2017, lorsque j'ai commencé à délaisser le triathlon, j'ai voulu revenir à ça, me rapprocher en fait de la nature. Je me sentais que en tri, c'était on refaisait tout le temps les mêmes cours, chaque année le même cours sur le circuit, tu vois, que c'était souvent des circuits urbains, je me plaisais pas trop, des efforts d'une heure, de deux heures maximum, tu vois, où je m'épanouissais pas forcément, c'était comme dans un jeu vidéo au final, on te donne le départ, tu plonges, bah, tu nages, tu montes sur le vélo, tu poses, tu mets tes shoes ou pas, tu pars à bloc à pied, tac, tu passes la ligne d'arrivée, tu comprends rien, tu vois, t'es là, tu subis. Et en fait, j'avais plus envie de ça. J'avais envie de vraiment de partir sur une discipline où j'étais moi-même acteur de ma performance, ou en tout cas de la gestion de ce que je pouvais en faire. Et du coup, dans le trail, j'ai trouvé ça avec ce rapport, ce retour aux sources, à la nature, en milieu naturel. Alors, j'aime bien partir seul parce que j'aime bien. C'est une façon pour moi de m'évader et tout. Et j'ai pris plaisir à augmenter les distances, à monter sur 30, 40, 50 bornes. Et plus c'était long, mieux j'aimais. Okay. Et j'ai tout de suite adoré, en fait, la gestion de la nuit, par exemple, en course, courir seul la nuit, les repères changent totalement. Tu vois, c'est des trucs, ça a été une révélation lorsque les premières fois j'ai couru de nuit en course et tout. C'est des choses que je connaissais pas. Moi, c'était passé deux heures, c'était fini, tu vois, dans des intensités folles. Et là, bah, il y avait toute une gestion de l'alimentation, une gestion du pacing de course. Et c'était complètement nouveau. Je découvrais ça. Et si tu veux, j'ai été attiré par les longues distances et je continue de l'être. Et en fait, maintenant, ça fait 3-4 ans que je pratique. Donc, je me considère encore comme un athlète novice, bien que j'ai une carrière de haut niveau derrière moi. Mais c'est plus dans l'approche. Mais en tout cas, dans la façon de mener un trail, tu vois, j'ai encore pas mal d'expérience à avoir, à aller chercher, en discutant avec les autres athlètes, en courant des courses. J'en ai pas fait des centaines, donc forcément, t'apprends de chaque course. Du coup, je suis monté comme ça à La Réunion parce que c'est un endroit qui m'est cher. J'ai commencé par la Mascarenhe, une course que j'ai remportée une ou deux fois, je sais plus, une course qui fait 65-70 kilomètres. Ensuite, je suis passé à l'étape supérieure sur le trail du Bourbon. Là, on passe les 100 km, on en a 115. On court la nuit. Là, il y a quasiment 15-16 heures d'effort. Donc, tu vois, sous la chaleur, bien souvent. Donc, il y a tout.
15-16 heures pour toi.
Voilà, 15-16 heures pour moi, c'est souvent le double pour les autres. Mais il y a toute une gestion quand même comme ça à avoir. Et du coup, en 2019, je me suis lancé sur la Diag. Du coup pour savoir ce que c'était mon premier 100 miles, mon premier grand raid comme on dit là-bas, et puis ça a été une expérience assez incroyable de courir 25 heures, j'ai mis 25 heures. Ça a été quelque chose de fort. La course n'a pas eu lieu l'année dernière et cette année elle a eu lieu donc c'est des choses qui m'attirent, ce genre d'épreuve. Et c'est vraiment ce que j'attends, quoi. C'est aller à la découverte de soi-même. Tu passes dans des états pas possibles de bien-être, comme de déprime profonde, tu vois. C'est la vie en accéléré en 24 heures, et c'est ce que j'aime, quoi.
Ok, ouais, donc des sensations très fortes.
Ouais, c'est des choses. Après, quand t'as fait du haut niveau, t'as été vite et tout, t'as de l'adrénaline, t'as besoin de ressentir des choses très fortes, et je retrouve ça dans le trail. Bien que la vitesse, elle soit pas du tout la même, mais en tout cas dans les émotions que tu peux avoir, dans les sensations, dans le partage avec les autres coureurs, avec ton staff et tout, c'est des choses complètement nouvelles et c'est des choses qui m'attirent vraiment.
Ok, ouais. Ben c'est vrai que tu vois, je me c'est une question que je me posais, tu vois, quand t'as eu une carrière longue et tu vois et riche de titres aussi à très haut niveau, est-ce que après justement faire du long, est-ce que il y a toujours aussi un petit côté amateur aussi un peu dans le trail, tu vois, alors même bien sûr c'est en train d'évoluer, ça se commercialise, c'est de plus en plus mis en lumière, mais de plus en plus aussi d'athlètes de un peu comme toi qui vont dessus, mais tu vois il y a toujours ce côté un petit peu amateur, un peu artisanal du trail, de l'amoureux de la nature. Je me demandais si c'était pas un peu fade, tu vois, justement, après les podiums, les courses, où justement, tu vas avoir
Ouais, non, c'est une approche totalement différente. Et je te dirais, pour tous les niveaux, que tu sois devant, milieu, à la fin de la course, tout le monde vit sa course d'une manière ou d'une autre. Et t'es un champion, ou t'es, lorsque tu, ne serait-ce que franchir la ligne, tu vois, c'est déjà une performance hors du commun, que de courir 24 heures pour nous, 48, 72 heures pour les derniers, de passer 3 jours comme ça sur des chemins. Et chacun a son histoire personnelle et si tu veux, passe par des émotions fortes et du coup non c'est pas du tout fade l'allure, bon bah c'est ça, c'est à l'escalier, mais au final t'es là en pleine nature à t'extasier devant des paysages parce que t'es d'équerre, t'as plus de jus, t'as plus rien, t'es en pleurs, en transe ou peu importe, et il y a un coucher de soleil, un rayon, une couleur, un truc qui te fait vivre et qui te fait sentir vraiment, qui te fait exister en fait, sentir vivant, tu vois, sentir vraiment présent dans le moment, et c'est ça qui compte, je crois, dans le trail. C'est des choses qu'en triathlon j'avais pas forcément parce que c'est une épreuve de masse, ou en tout cas de masse où tu contrôles pas tes allures, t'es dans le truc et voilà quoi. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors là, c'est une approche totalement différente, et que ce soit pour François Den ou pour le dernier du classement, tu vois, chacun a ses raisons de partir et de donner le meilleur de soi, tu vois, et c'est vraiment ce qui est bon, même dans une préparation, dans un entraînement, tu pars, tu peux te prendre la pluie, et puis au final, tu te souviendras de cet entraînement comme un truc incroyable, parce que bah, ce moment-là, tu as vécu vraiment fortement les choses, et tu t'en rappelleras 2-3 ans après, alors que sur le coup, ça t'a vraiment pas plu, mais tu vois, c'est des choses qui comptent, et c'est vrai qu'en trail, c'est souvent comme ça que ça se passe.
Ok, bah cool. Ouais. En tout cas, j'aime beaucoup ta vision, la vision que tu peux avoir aujourd'hui, et c'est plutôt chouette. J'avais une dernière petite question, ouais, sur plutôt ta paternité, tu vois, toi ça rimait un peu avec le fait que tu veuilles te sortir du circuit international en tri, ton premier enfant. Ta femme me semble être athlète pro suisse. Elle a eu aussi de très très belles courses et très très beaux jours dans la discipline. Comment est-ce que vous voyez un peu votre parentalité par rapport au traitement? Est-ce que vous avez envie de les pousser à en faire? Est-ce que vous avez, est-ce que du coup ils font déjà du sport, déjà les bébés nageurs ou je sais pas quoi? Mais comment vous, c'est quoi votre vision en tant que parent ancien triathlète professionnel, quoi?
Ouais, c'est vrai. Alors pour expliquer les choses, j'ai ma femme maintenant. On est mariés depuis quasiment 10 ans là maintenant. On s'est rencontrés sur le circuit. Elle courait pour la Suisse, moi pour la France, chez les juniors déjà. Donc on était en 2002-2003 les premières fois. On s'est rencontrés. On a commencé à se fréquenter quasiment vers 2010. On s'est mariés un peu plus tard. On a eu donc maintenant on a 3 enfants, 3 petits garçons qui ont 7, 4 et 1 an. Et du coup, forcément, le sport prend une place importante chez nous, parce que moi, je continue à activement m'entraîner. Elle aussi, elle a besoin de partir, d'aller courir, d'aller du vélo, pas trop, mais d'aller nager ou courir en tout cas. Et forcément, les enfants, ils veulent faire pareil. Mon grand, en tout cas, je me revois au même âge. Tu vois, papa, viens, on va rouler, viens, on va courir, on va faire des tours de quartier, tu vois. Et du coup, il a déjà fait 2 triathlons cet été, ouais. Il a déjà fait 2 triathlons. On l'a pas du tout forcé, hein, parce qu'il fait aussi du tennis, de la natation, il fait de la danse aussi, tu vois. Et du coup, mais c'est lui qui a vraiment voulu faire ces courses-là. Nous, la seule chose, aujourd'hui, qu'on impose, c'est de nager, parce que, on a envie qu'il sache bien nager, que jusqu'à peut-être ses 10 ans, on lui demande pas savoir s'il veut ou pas y aller. Il y va, et puis après, il décidera. Parce que c'est une chose, c'est important, je pense, de bien savoir nager, d'être à l'aise en mer, ou pour nous, en tout cas, où on a la chance d'y aller assez souvent. Ouais. Et pour ensuite décider lui-même de ce qu'il veut faire. Mais non, il
développe des super capacités
respiratoires.
Enfin, même dans ta vie.
La natte, c'est se sentir à l'aise dans l'eau. Tu t'en sers toute ta vie, peu importe, sportif ou pas sportif, c'est important, je pense. Et du coup, on est assez libre de leur choix. On les laisse faire. On a une famille assez sportive, donc forcément, ça leur montre la voie. Mais je me revois à son âge, je trouve qu'il ils ont bon, on a été athlètes de haut niveau tous les deux, et du coup on retrouve rapidement, enfin on voit que les enfants ont leur corps dans l'espace, qu'ils comprennent, qu'ils captent, tu vois, par mimétisme. On leur explique pas les choses, mais ils voient une fois, deux fois, et puis tac, ils appliquent, ils savent faire, tu vois. Et ça, et ça, on comparé à d'autres enfants où c'est plus, bah c'est différent. Ça, on voit que c'est, on pense que ça vient du haut niveau. C'est peut-être. Et du coup, voilà. Donc là, on va partir à La Réunion. Je vais le mettre à surfer un peu. Je vais le faire surfer, continuer à nager, et puis ouais. Et puis s'il veut faire du tri, bah il fera du tri. Mais pour l'instant, c'est le mountain bike qui le branche, c'est le VTT. Parce que ici, le VTT en Suisse, c'est assez gros avec Nino Schurter. C'est quelque chose de. Il y a un gros niveau. Donc pour l'instant, c'est ce qui le branche. Et le deuxième, il est encore un peu petit pour.
Ouais,
mais c'est top, ouais, d'avoir trois, ça fait une belle tribu. Et en tout cas, dans quelques années, on se régale de partir. On part souvent sur la route comme ça, tu vois, 2-3 jours, dormir en tente ou à l'aventure. Et on leur inculque ça, tu vois, déjà, ces valeurs. De dépassement et de respect, enfin, de la nature, d'être en phase, en harmonie avec tout ça, ce bonheur d'être proche de la nature. Ouais.
Bon, bah, c'est trop cool. Écoute, profitez-en bien. Effectivement, la vie de famille et la vie de parents, c'est une très, très belle aventure qu'il faut vivre à pleines dents, et c'est un des moments de partage très, très cool. Si vous le faites, vous avez l'air d'être aligné, en tout cas, autour de vos valeurs. Donc, trop bien. Trop, trop bien. Écoute, j'ai des petites questions de la fin. C'est un peu pour terminer sur une note un peu dynamique.
Yes.
Tu peux répondre du tac au tac. C'est juste pour savoir un petit peu tes petites affinités du moment, tes petits trucs. Mais la première, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans ta playlist?
Dans ma playlist, on va trouver du dancehall,
okay.
du raga dancehall, et puis sinon, ouais, en ce moment, c'est plus dancehall, raga dancehall.
Ok, ça marche. T'as un artiste à me recommander ? J'en écoute pas du tout, donc.
Non, là, j'ai pas de. Non, les artistes, je les mets en playlist, ça tourne. Je pourrais pas te dire.
Okay.
J'ai pas mental, désolé.
Bon, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Je te demanderai les playlists en off pour écouter un petit peu. Trop cool. Est-ce qu'il y a un livre ou un film ces derniers temps que tu recommandes à tout le monde et tu dis, ah, faut absolument que tu vois ça.
Putain, je regarde pas trop la télé. J'ai pas tout ce qui est Netflix, tout ça.
C'est bien.
Non, ouais, franchement, du coup, je regarde pas trop la télé en Suisse. C'est suisse-allemand en plus. non, le cinéma non plus. Putain, je pourrais même pas te dire le dernier film que j'ai vu. Le livre, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Breathe. C'est sur la respiration, en fait, parce que j'ai parlé tout à l'heure du travail de respiration, c'est de Patrick McKeown. En fait, c'est des techniques de respiration qui permettent d'optimiser comme ça, la perf, ou en tout cas le travail d'optimisation. Donc,
bon, bah cool.
Ouais. Cool. C'est simplement avec des poumons comme ça que tu vois. C'est en anglais, mais je pense peut-être qu'il y a en français, je sais pas.
Ouais, sûrement. Ouais. Bah, écoute, trop cool. Merci de la reco. Je vais regarder ça. En plus, c'est un sujet qui m'intéresse en ce moment.
Ah ouais, bah, je pourrais te faire passer des liens, ouais.
Vas-y, avec grand plaisir. Trop chouette. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans?
Dans 10 ans, écoute, je me vois partir en aventure, comme ça. Je me vois pas forcément faire de la compétition, mais faire des aventures au long cours, traverser des pays, traverser des continents, que ce soit en vélo, à pied ou pour des causes vraiment qui me sont propres, et tu vois, plus faire se challenger à traverser les États-Unis, traverser l'Amérique du Sud, faire la transcontinentale, tu vois, c'est des trucs qui m'attirent sur plusieurs semaines comme ça.
Ouais
mais pas dans l'esprit de compète, vraiment dans l'esprit d'aventure, de prendre le temps de rencontrer, de partager et tout, et puis justement
un peu comme tu peux le faire peut-être, je sais pas, Steven Le Yarrick ou
Ouais, Steven, c'est un bon copain à moi. Tu vois, on était encore
C'est
à
vrai?
Chamonix. Ouais, on est souvent en contact ensemble. Chaque fois, je lui dis, viens, on va faire le tour de Suisse et tout. Là, il est sur le Tour des Géants. Mais en tout cas,
Bien
voilà,
sûr.
c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, avec qui je discute. Et puis, je suis très proche. Et du coup, ouais, pourquoi pas faire des trucs avec lui dans le futur. C'est des choses qu'on réfléchit, qu'on met en place,
Ok,
justement.
ça marche. Bon, bah,
Ouais.
écoute, tout ce que je vous souhaite, c'est vrai que Steven,
Ouais,
c'est
il est
génial comme
inspirant.
gars,
Ouais,
donc
ouais, ouais, ouais.
c'est très cool. Ok, trop chouette, trop trop chouette. Et ben écoute, la toute dernière question, c'est de savoir, c'est un peu comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plus un passage de micro. C'est de savoir quel est le prochain ou la prochaine athlète de haut niveau francophone que tu me recommandes d'aller interviewer pour justement lui faire raconter un petit peu son histoire, partager un petit peu des moments forts et sa vision du sport. Ça peut être quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas du tout d'ailleurs.
Non, bah, j'allais te dire Steven, mais j'imagine que peut-être il est déjà passé sous ta
Ouais,
micro.
il est déjà venu et
Ah.
il va revenir. Il va
Ah,
revenir.
il va revenir, d'accord. Non, quelqu'un d'inspirant. Bah, je crois que, je sais pas, Vincent. Je sais pas si Vincent Louis, il a déjà été ton invité, mais c'est vrai que maintenant la vision qu'il peut avoir de sa pratique, de son sport, c'est quelqu'un de super investi dans ce qu'il fait. Il est vraiment déterminé pour gagner, et du coup ça inspire beaucoup. Moi, je l'ai connu assez au début, et donc je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le rencontrer.
Bah écoute, je vais essayer. Je t'avoue que là, les 18 derniers mois, j'ai pas osé le déranger.
D'accord.
Puis je crois qu'il était aussi, là, il a quasiment fait aucune interview et il était ultra
Ouais.
concentré sur ce qu'il faisait. Donc je laisse peut-être encore quelques semaines. Mais oui, je rêve de effectivement pouvoir avoir un petit échange avec Vincent de C4. C'est
Ah ouais.
prévu. Je n'arrêterai pas ce podcast tant que je l'aurai pas
Ah
eu.
ouais.
S'il
Bah
nous
écoute,
écoute.
ouais, non, mais je pense que ouais, cet hiver, quand il aura laissé un petit peu tout ça derrière lui, et puis là, il est encore un peu sur le pont avec les manches de Super League, mais
Bien
à un
sûr.
moment donné, c'est bien de, tu vois, de partager, qui donne comme ça sa vision un peu de, bah, qu'il a du sport, de sa pratique et tout. Ça serait super intéressant, je pense, pour les plus jeunes. Et puis, parce que maintenant, il arrive à 32, 33, tu vois, bon, bah, il sera sûrement sur Paris 2024, mais à un moment, faut savoir partager, donner un peu. Et puis,
Ouais, c'est vrai.
je pense qu'il est en capacité de le faire maintenant, avec l'âge qu'il a.
Ok, ça roule. Mais, bah écoute, ouais, je le recontacterai, c'est sûr, hein, et on l'embrasse si jamais il nous écoute maintenant. Écoute, franchement, David, merci infiniment. Franchement, je me suis régalé pendant cette grosse heure. Je te dis à quel point j'aimais regarder un peu tes courses et suivre un peu tes résultats avec ce petit côté un peu rock et surf, tu vois, que t'avais sur la ligne de départ. Et je trouve que c'est tout aussi sympa en vrai que comme tu l'étais sur ma télé. Donc franchement, merci infiniment d'avoir pris le temps, c'était super chouette. Et qu'est-ce qu'on dit aux auditeurs qui veulent en savoir un petit peu plus sur ton actu, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, sur quel réseau social tu es un peu plus
Bah
actif,
ouais, écoute, mon programme, ça va être de partir à La Réunion assez rapidement, d'ici début octobre. Je vais aller y passer deux petits mois, donc c'est toujours sympa là-bas de me suivre. J'ai toujours plein d'activités, toujours plein de belles photos, plein de trucs. Donc sur mon Instagram, c'est Davos. Je relaie un peu mon activité, mon actualité plutôt. J'espère refaire des courses fin d'année. J'étais un petit peu blessé là, donc là ça a l'air d'aller un petit peu mieux depuis 3 semaines. Donc j'ai les dents qui rayent le parquet, comme on dit. J'ai vraiment envie de recourir. J'espère être de la fête sur le Grand Raid. Je sais pas si je serai sur la Diagonale, mais je ferai tout de mon possible pour être sur l'événement d'une manière ou d'une autre. Et puis après, bah, de préparer l'hiver, et puis l'année prochaine, essayer de faire pour moi, bah, l'UTMB et voir le Grand Raid. C'est des courses que je devais faire cette année. Donc pas mal de bons trips en perspective, avec des stages d'entraînement, et puis de faire partager ça au mieux à ma communauté.
Trop cool. Bah
Ouais.
écoute, j'encourage fortement les auditeurs
Yes.
à aller te rejoindre et à aller suivre tout ça. Merci infiniment, David. J'ai passé encore vraiment un super moment et écoute, je touche du bois pour que tu reviennes vite
Ouais, ouais,
en
ouais.
pleine forme et que tu puisses faire des projets qui t'éclatent.
Ouais, bah de toute façon c'est ça, c'est la vie, ça tourne. Des fois ça va un peu moins bien. Faut savoir faire le dos rond et puis se dire qu'à un moment le soleil va revenir. Ça peut prendre du temps, mais tu vois, faut s'accrocher, faut jamais laisser tomber, faut se fixer des challenges, faut se challenger, se sortir sortir de sa zone et puis parce que bah la récompense est belle, tu vois, et puis ne pas hésiter comme ça à aller partir à l'aventure sans trop savoir, aller à la rencontre des gens, partager, se surprendre, et puis on est jamais déçu du voyage, et c'est ce qui compte au-delà du résultat, tu vois. C'est plus forcément le chemin plus que le résultat, comme on dit.
Ouais, exactement. Voilà. Très bien dit. Faut que savoir ça, ça vaut le chemin. Et ben, écoute, salut David. Je te souhaite une bonne fin de journée.
Beaucoup.
Et embrasse ta petite famille pour moi.
Yes. Allez, Marc, salut.
Salut.
Toi aussi, ta petite famille. Salut, salut. Ciao, ciao, bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.